les enfants de Chronos. Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, c'est moi qui vous parle, Nicolas Bilot, archéologue. Nous allons présenter le château de Fère-en-Tardenois. Entre les rivières de la Marne et de la Velle, presque à distance égale de Château-Thierry et Soissons, se dressent les vestiges fragiles d'un des plus beaux vaisseaux de pierre de notre sud-Picard, le château de Fère-en-Tardenois, classé monument historique dès la première liste de classement en 1840. Robert II de Dreux est le commanditaire de cet édifice grandiose. Lui qui avait essayé, à la charnière des XIIe et XIIIe siècles, de créer, entre comté de Soissons, comté de Valois et comté de Champagne, la principauté de Braine. Il obtint, en 1206, de la comtesse de Champagne, le droit de bâtir une forteritia, nous dit-on en latin, c'est-à-dire un édifice fortifié, une maison forte, qui n'est pas un château. Le fils de Robert II, Pierre Mauclair, terrible personnage de la première moitié du XIIIe siècle, héritera du nouveau château de Fère-en-Tardenois, qu'il achèvera d'ailleurs peut-être. Le choix de Robert avait été d'implanter le château dans un site finalement assez reculé, presque isolé même, profitant d'un coteau relativement abrupt pour contrôler une route d'importance relative qui reliait Château-Thierry à Fismes. Il faut s'imaginer, contrairement à l'impression que l'on en a en visitant aujourd'hui, que le site alors est entièrement défriché et le pied du coteau très probablement marécageux. Par ailleurs, il s'agira d'un château atypique. Alors que la plus grande part des seigneurs du domaine royal s'engage à suivre le roi Philippe Auguste et son ambition de construire désormais les châteaux selon un modèle régulier dont nous avons déjà parlé, le modèle dit philippien ou capétien, c'est-à-dire des châteaux symétriques, carrés, Robert décide ici la construction d'un édifice qui en est presque l'exact opposé. Doit-on y voir le souci de plaire à la comtesse de Champagne plutôt qu'au roi ? Comtesse de Champagne qui est l'adversaire politique du roi de France et qui l'avait autorisé à bâtir. Toujours est-il que c'en est décidé. Le château sera sur une motte et non pas sur une cour. Sans tour maîtresse, alors qu'au Louvre et dans tous les châteaux français règne la grande tour maîtresse, le donjon. Il sera irrégulier dans son plan, et même asymétrique. Alors revenons sur ces points. Ce qui impressionne en premier le visiteur aujourd'hui, et dès probablement le Moyen-Âge en fait, c'est la puissance de la motte qui porte la fortification. Une grosse butte de 25 mètres de haut, de 140 mètres sur 120 mètres de base, détachée de l'éperon par un très large fossé de 55 mètres. Des proportions que l'on ne trouve qu'en Orient, dans les châteaux des croisades. Ajoutons que, dès la fin du Moyen-Âge, cette motte est entièrement maçonnée de gros carreaux de grès qui renforcent le caractère du site. C'est un cas unique à notre connaissance au nord de la Seine. S'en vient ensuite le souci de lisibilité du site. Car le plan est tout simplement incompréhensible aujourd'hui. Rien n'est jamais comparable exactement à la structure similaire voisine. Les tours ont des diamètres qui varient, mais dans des proportions comparables, jamais deux tours identiques, entre 9 mètres et 9,50 mètres de diamètre. Les courtines ont des longueurs variables, elles aussi, de 7,50 mètres à 16 mètres. Les archères elles-mêmes ont des hauteurs différentes. Un spécialiste avait émis l'hypothèse par le passé que l'architecte du château de Fère-en-Tardenois s'était moqué de nous en s'ingéniant à ne rien simplifier. Puis viennent les observations de détail qui montrent en quoi le château de Fère-en-Tardenois mérite que l'on s'y attarde et que l'on l'ait classé monument historique sitôt. Tout d'abord, à l'entrée de la motte, signalons l'ensemble remarquable que forme cette simple petite porte logée entre deux massifs en éperon pentagonaux, eux-mêmes encadrés par deux tours circulaires de gros diamètre. La morphologie de l'ensemble paraît bien complexe pour peu de choses, et elle rappelle un petit peu la porte de Château-Thierry, ou la porte de Provins, plus loin de nous, mais elles ne doivent pas faire oublier que le modèle capétien n'est tout de même pas très loin. Ensuite, évoquons ce curieux dispositif de dentelure à la base des tours. En effet, en vous approchant du site, vous constaterez que c'est ce qui fait la signature unique du château, et j'ai bien dit unique, au monde. Cette curieuse disposition à la base de chaque tour, comme une roue dentée, située à peu près à 1 mètre du sol aujourd'hui, est très impressionnante. Que cet aménagement n'a-t-il pas fait écrire et parler les plus grands amateurs d'architecture, les plus grands spécialistes d'art militaire? On a dit tour à tour qu'il s'agissait de dents gradées minutieusement, conçues pour dévier les projectiles. Que c'était un dispositif pour organiser de savants ricochets de pierres jetés depuis les anciennes défenses sommitales, les ours et les machicoulis. Qu'il s'agissait au contraire d'un élément architectonique essentiel au maintien de la stabilité des tours. Tout un tas d'autres théories encore. En fait, il n'en est rien. Et aujourd'hui, la plupart des auteurs s'accordent sur un constat bien plus simple. Tout d'abord, il faut se figurer qu'à l'origine, au XIIIe siècle, ces roues dentées étaient à la base des tours, et non pas à 1 mètre du sol. C'est qu'en fait, on a modifié le niveau de sol en le rabaissant par la suite. Et puis, il ne faut pas oublier, lorsque l'on se retrouve confronté dans un monument à une disposition architecturale inédite, et au passage, quand elle est inédite, c'est très souvent qu'elle est devenue inutile, il ne faut pas oublier que l'architecture est un savoir-faire qui est petit 1, pragmatique, petit 2, savant, et petit 3, artistique. En général, avec l'une ou l'autre de ces trois considérations, on trouve ce que l'on cherche. Et ici, affaire en Tardenois. Peut-être qu'il y avait une référence à une obscure édifice qu'on a perdu aujourd'hui, ou l'espoir d'un intérêt pratique. Mais en réalité, c'était probablement une réalisation qui est l'exemple du formidable laboratoire d'idées que fut la construction castrale, et particulièrement ici entre le comté de Champagne et le royaume de France, et que ce choix est probablement beaucoup plus un choix esthétique, artistique devrait-on dire. Sur ce puissant château, clairement, l'objectif n'était pas simplement de rehausser l'impression de puissance du site, mais aussi l'impression de majesté de l'édifice, qu'il paraissait ainsi enraciné comme une grandiose sculpture dans la motte de pierre dont il serait issu. Le reste du site est bien muet, pourtant il reste beaucoup de murs, vous allez me dire. Mais c'est qu'il ne reste que les parements extérieurs qui sont d'origine. Les fentes de tir bouchées nous témoignent de ce qu'était le château médiéval de fer en Tardenois et c'en est presque aujourd'hui le seul indice des dispositions intérieures. Il faut dire que le château est passé de main en main au Moyen-Âge et qu'il a fini par être offert par le roi de France, François Ier, à son connétable Anne de Montmorency, encore lui, qui entreprit d'y réaliser de très puissants travaux. Le connétable Anne de Montmorency s'intéresse à fer en Tardenois pour venir y chasser. Et lui, il va modifier tous les intérieurs du château, ainsi que la porte, de sorte qu'aujourd'hui, on a finalement une coquille médiévale, mais à l'intérieur, les vestiges d'un château de la Renaissance. C'est à lui que nous devons aussi la signature du site, ce formidable viaduc à 2 niveaux qui relie la cour à l'éperon, au-dessus de ce grand fossé de plus de 50 mètres dont je vous ai parlé. C'est une œuvre qui vous rappellera peut-être, lorsque vous visiterez le site, le pont du célèbre château de Chenonceau. Et ce n'est pas sans raison, car il s'agit bien du même artisan pour les deux œuvres, du même architecte, Jean Bulhand, au milieu du XVIe siècle. L'intérieur du château est donc entièrement modifié, et très rapidement, paradoxalement, bien que moderne, il n'attire plus. Dès le XVIIe siècle, il s'abîme, et en 1779, le dernier seigneur de fer en Tardenois avant la Révolution, celui qu'on appellera plus tard Philippe Égalité, décide de suivre le conseil qu'on lui donne et ordonne que le château soit démantelé pour être vendu pierre par pierre. La Révolution, puis le désamour au début du XIXe siècle n'arrangeront rien, et il faudra l'intérêt des romantiques, de quelques esprits éclairés, et d'un propriétaire consciencieux, Raymond de la Tramerie, à la fin du XXe siècle, pour que le site retrouve un petit peu de sa force, de la force qui faisait sa caractéristique autrefois. Félicitons-les, car c'est grâce à la sauvegarde qu'ils ont réussi à motiver que vous pouvez aujourd'hui encore visiter librement ce joyau de l'architecture seigneuriale médiévale, le château de Fer en Tardenois, qui, je le précise, ne doit pas être confondu avec le château de La Fère. We'll be right back.